coq chanter le jour paraît, tous ces debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous prenons part au petit déjeuner de la Méditerranée et de l'Afrique qui a eu lieu à Paris le 4 avril 2017 dernier. Pour cette séance de petit déjeuner de la Méditerranée et de l'Afrique, le thème c'était Afrique, Méditerranée, Europe pour une souveraineté et une sécurité alimentaire durable et partagée. C'est le jeudi 1er septembre 2016 que l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen ou IPMED, le journal La Tribune, BPI France ont signé un accord de partenariat concernant l'organisation des petits déjeuners de la Méditerranée et de l'Afrique. Ces petits déjeuners ont pour objectif d'évoquer l'actualité économique et prospective de la Méditerranée et de l'Afrique à hauteur de 4 événements par an. Notre premier intervenant, c'est Jean-Louis Guigou, président de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen.
L'idée est simple, ça fait 10 ans que nous sommes sur le sujet. C'est une vision du monde déjà exprimée en 2007. Après les conflits Est-Ouest, nous disons maintenant ça va se passer Nord-Sud. L'Amérique du Nord coopère de plus en plus avec l'Amérique du Sud. C'est une espèce de quartier d'orange, une tranche de melon. Le Japon, la Chine, l'Australie et les pays du Sud-Est asiatique, 3,5 milliards, là encore. Et donc, il faut maintenant créer le dernier quartier d'orange, Europe, Méditerranée, Afrique. 2 milliards d'Africains en 2050, 500 millions d'arabo-musulmans et 500 millions d'Européens. C'est une tranche du monde qui tourne à la même heure. Nous sommes complémentaires, nous sommes voisins et nous nous connaissons bien, avec nos qualités et nos défauts. Et donc nous disons l'avenir du monde, c'est ces tranches d'orange, ces quartiers d'orange, et le nôtre reste à faire. Mais alors, avec beaucoup de subtilité, nos amis africains subsahariens nous ont dit il faut pas l'appeler Europe, Méditerranée, Afrique, parce que l'Europe, on commence toujours par l'Europe. Or, l'Europe vieillit, l'Europe décline. Vous allez inverser, vous allez commencer par Afrique. Afrique, Méditerranée, Europe, ça fait AME, ça fait l'âme de la verticale. Et donc, nous en a déposé la marque. Je trouve ça très, très, très spirituel et bien vu. Et donc, on appelle notre vision géopolitique de demain, c'est construire cette grande région, AME, Afrique, Méditerranée, Europe. Et pour la construire, il faut mettre en place, comme dans les autres quartiers d'orange, les Amériques et la Chine, il faut mettre en place une fondation. Voilà pourquoi on se bat pour une fondation AME.
Vous avez déjà programmé la prochaine rencontre sur l'énergie?
Oui, la prochaine rencontre aura lieu le 21 juin sur l'énergie. Et dans un mois, on parlera beaucoup des énergies renouvelables. Comment les populations par vallée, par quartier, par ville, arrivent à s'autonomiser avec le solaire thermique, le solaire photovoltaïque, la micro-hydraulique, des petits barrages, avec des petites centrales éoliennes, et n'est plus à attendre que le gouvernement, que l'État construise des grands barrages, des grands projets. Il faut que les gens s'autonomisent. Ce thème est majeur.
Alors, au fil des rencontres, j'ai pu voir que tous ceux qui intervenaient, c'était des grosses têtes ou en tout cas des responsables. Et qui fait partie de cette AME?
Elle est en cours de construction, cette fondation. Mais là, au cours des petits déjeuners, on essaye de mélanger à la fois des experts, des politiques et des entreprises. Et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de IPMED.
En fait, c'est l'occasion d'échange d'expériences.
Oui, c'est l'occasion de boire un café aussi, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter, échange d'experts, mais surtout la volonté d'avoir un dénominateur commun, la volonté de faire consensus. Nous sommes des producteurs d'unité. On veut que globalement, entre Africains, Arabes, Méditerranéens et Européens, entre experts politiques et chefs, on veut du consensus. Et lorsqu'on dégage un consensus, alors on est très fort.
Je vous remercie.
Merci infiniment à vous.
Jean-Louis Rastoin est professeur honoraire à Montpellier Subagro et fondateur de la chaire en alimentation du monde. C'est le versant Europe de la verticale Europe-Méditerranée-Afrique. La chaire UNESCO Alimentation du Monde, établie en 2011 au Centre international d'enseignement supérieur en sciences agronomiques Montpellier Subagro, a pour ambition de coordonner des programmes de recherche, de formation et de transfert de connaissances en France et dans le monde. Dans un premier temps, nous allons demander des précisions sur cette verticale Europe-Méditerranée-Afrique.
Oui, alors c'est un concept géopolitique extrêmement intéressant qui consiste à dire qu'on doit se rassembler dans la proximité. Et là, c'est la proximité nord-sud. Et ça représente un poids démographique suffisant pour peser au niveau mondial. Il y a 72 pays et en 2050, ce sera 3,3 milliards d'habitants. Donc c'est à la fois une zone politique qui pèse, mais aussi une zone économique, une zone commerciale, une zone aussi de savoir, de gisements d'innovation, etc. Donc c'est quelque chose, si on arrive à nouer des partenariats privilégiés, cette zone pourra faire contrepoids aux deux autres pôles majeurs de l'économie mondiale, c'est-à-dire il y a le pôle atlantique avec les deux Amériques et il y a le pôle autour de la Chine.
Alors, si on parle de sécurité alimentaire, c'est qu'il y a insécurité. Quel est l'état des lieux dans cette zone AME que vous dites ?
L'état est très préoccupant du point de vue de la santé publique, hein, puisque selon nos calculs, environ 70% de la population de l'Afrique et du Moyen-Orient, pas de l'Europe évidemment, où la situation est un peu meilleure, donc 70% de la population est soit en état de sous-alimentation, soit en état de suralimentation. Et c'est là qu'on a le triple fléau, qui est premièrement le fléau de la faim. Il y a des centaines de millions de personnes qui souffrent de la faim dans cette zone. Le deuxième fléau, ce sont les maladies d'origine alimentaire.
Pour ceux qui sont en surnutrition.
Voilà, en surnutrition, obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires. Et le troisième fléau, c'est la toxicité des aliments. Parce que les normes de qualité, de contrôle de qualité, ne sont pas suffisantes pour qu'on garantisse une... Et donc il y a de très très nombreux morts par intoxication alimentaire dans la zone encore.
Alors vous avez dit qu'il y a quatre marqueurs de cette insécurité alimentaire.
Alors les trois autres marqueurs, le premier c'est la santé, le second c'est le marqueur démographique dont on a déjà parlé, avec le doublement de la population de l'Afrique au sud du Sahara, l'augmentation de 60% en Méditerranée, on va avoir là de nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, ce sont des centaines de millions d'emplois qu'il faut créer. Et donc on a là, si vous voulez, un défi colossal, et au sous-emploi et au chômage évidemment est lié l'insécurité tout court, et le phénomène des migrations. Donc plutôt que de laisser faire les courants des migrations qui sont évidemment des tragédies terribles, il faudrait au contraire développer l'économie au sud pour créer des emplois, etc.
Alors j'ai noté, vous avez parlé de disponibilité de l'alimentation, d'accessibilité.
Oui, alors ça c'est la définition de la sécurité alimentaire, hein. C'est disponibilité, il faut que le pays produise des aliments. Et le deuxième, c'est évidemment l'accessibilité. Il faut avoir de l'argent, il faut que les prix soient en adéquation avec les salaires, etc., avec les revenus. Hein. Et il y a également une autre notion qui est très importante, c'est la qualité alimentaire. Donc c'est la qualité nutritionnelle de l'alimentation, mais aussi la qualité culturelle. C'est-à-dire pouvoir consommer les aliments traditionnels, évidemment produits dans des conditions modernes pour qu'ils soient sains. Mais il faut laisser au peuple le droit de se nourrir selon la façon dont il souhaite.
Puis il y a l'environnement.
Oui, alors il y a le problème de l'environnement parce que le modèle de l'industrialisation de l'agriculture provoque des dégâts avec les pertes de fertilité des sols ou même la destruction des sols, avec la diminution de la biodiversité et avec des pollutions multiples, avec les engrais chimiques, toutes ces choses-là. Donc il faut inventer une nouvelle façon de produire l'agriculture. Et ça s'appelle l'agroécologie.
Qu'est-ce que vous appelez fracture alimentaire ?
Alors la fracture alimentaire, si vous voulez, c'est lié principalement à une inégale répartition de la nourriture. Parce que si on regarde bien, dès aujourd'hui, en 2017, il y a assez de production alimentaire sur la planète pour nourrir tout le monde correctement. Le problème, c'est que c'est très mal réparti. Il y a des gens qui mangent trop, il y a des gens qui n'ont pas assez à manger, qui souffrent de la faim. Donc il faut veiller à ça. Et les gens qui mangent trop, d'ailleurs, auraient intérêt pour leur santé à manger un peu moins. Et donc on peut imaginer une meilleure répartition de la nourriture. Et pour qu'il y ait une meilleure répartition de la nourriture, il faut développer la production d'aliments là où il y a des consommateurs. Et j'ai parlé des 3 milliards d'habitants à l'horizon 2050. C'est là, en Afrique, au sud du Sahara, dans le bassin méditerranéen, c'est là qu'il faut impérativement développer la production.
C'est dans le cas des pays qui dépensent des fortunes pour importer des aliments.
On a estimé qu'en 2014, c'était 180 milliards de dollars qui partaient dans les importations des pays de l'Afrique et des pays du Moyen-Orient. C'est une somme énorme. Et évidemment, si vous dépensez ça pour importer vos aliments, vous n'allez pas dépenser pour investir dans la production alimentaire locale. Donc il faut faire progressivement une substitution d'une partie des importations par la production locale. C'est ce qu'on appelle la reconquête du marché alimentaire intérieur.
Alors, la solution à tous ces problèmes-là que vous préconisez, vous, c'est ce que vous appelez la souveraineté alimentaire?
Oui, oui. Ça a été développé au Forum social de Porto Alegre, et ça fait déjà maintenant une vingtaine d'années, ou plus même. Et ça signifie que, encore une fois, les peuples ont le droit de choisir la façon dont ils souhaitent s'alimenter.
Si je veux du niébé, il ne faut pas qu'on m'impose du pain.
Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, ça conduit à uniformiser la consommation alimentaire dans tous les pays du monde. Alors la caricature, évidemment, c'est le hamburger plus le soda, que je ne nommerai pas à la radio, mais qui est connu universellement. Et on est capable de fabriquer des boissons locales ou d'extraire des eaux de source locales qui sont pures, etc. Et c'est vraiment ce qu'il faut préconiser.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Portons-nous au niveau de la Méditerranée, de cette verticale Europe-Méditerranée-Afrique, avec Cosimo Lacirignora, qui est secrétaire général du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Ce Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes est une organisation intergouvernementale qui a été créée à l'initiative conjointe de l'Organisation de coopération et de développement économique et du Conseil de l'Europe en 1962 par un accord entre les gouvernements de sept pays. Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Turquie et Yougoslavie.
Oui, on est né en 1962 à l'initiative de l'OCDE et du Conseil d'Europe. L'idée, c'était à cette époque, étant donné qu'on parlait beaucoup d'alimentation, comment nourrir l'Europe, la politique agricole commune est née en 1962. Nos pères fondateurs, les ministres des Affaires étrangères de nos pays, ont décidé de créer une organisation qui pouvait traiter la connaissance et l'agriculture à travers la formation des cadres des pays méditerranéens.
C'est surtout la formation des cadres.
Formation, assistance technique et recherche appliquée. Donc les trois, on travaille en 3D. On peut pas y avoir la connaissance, c'est l'accompagnement sans la résolution des problèmes. Mais pour nous, les problèmes, c'est exprimer les besoins en fonction de ça, remonter la chaîne du savoir et du faire.
Combien de pays ?
13 pays actuellement qui font partie de notre organisation, 7 pays européens, donc Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, Albanie, Malte et Turquie, et ensuite les ports méditerranéens, Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, Liban et Égypte. Et malheureusement, on s'est arrêté à ces 13 pays parce que, bon, on est né en 62 et pour entrer dans notre organisation, il faut l'unanimité. Donc toujours des clivages, des problèmes politiques nous ont empêchés de nos points de vue politiques. Mais on travaille avec 54 pays, 650 organisations, universités, etc., dans une centaine de projets. Donc ça veut dire que du point de vue technique, on n'a pas de limites. C'est pour ça qu'on s'intéresse non seulement à la Méditerranée, mais aussi à l'Afrique.
Alors on va rester au niveau européen d'abord. Vous avez parlé de la PAC en 1962, c'est-à-dire l'année où on créait votre organisation. Et vous dites que 60% du budget européen à l'époque était consacré à l'agriculture. Et votre conclusion, c'est que l'Europe s'est bâtie sur l'agriculture.
Bien sûr. L'Europe s'est bâtie surtout sur l'agriculture parce que c'est la seule politique qui a été menée. Il n'y a pas politique étrangère, en fait, en Europe. Il n'y a pas politique énergétique. Mais quand même, les financements, les pères fondateurs de l'Europe ont reconstruit l'Europe en partant de l'agriculture.
Puis après, on a pensé qu'il y avait la Méditerranée. Je ne sais même pas pourquoi on l'a oublié à l'époque, parce que beaucoup de civilisations européennes sont nées sur la Méditerranée. Et on a élargi aujourd'hui à l'Afrique. Pourquoi ?
À l'époque, quand en 1995, les 43 pays riverains de la Méditerranée ont signé les accords de Barcelone, on visait surtout sur la petite et moyenne entreprise, sur des investissements qui ne concernaient pas l'agriculture. Parce que l'agriculture, à l'époque, c'était un peu la concurrence entre produits méditerranéens, je pense à l'huile d'olive, aux tomates, aux agrumes, etc. Donc, les Européens, ils ont été un peu réservés sur l'aspect agricole, donc c'était plutôt l'investissement sur d'autres sujets, donc c'était petite et moyenne entreprise, etc. Et maintenant, le monde a changé, le monde a besoin d'aliments en quantité et en qualité, parce que en 2050, le monde aura 10 milliards d'individus. Donc, le monde a besoin de produire plus. Naturellement, les ressources, soit les ressources halieutiques, soit les ressources en eau, soit les ressources en terre, sont limitées. Donc, il faut produire plus avec moins d'intrants, moins de ressources naturelles, eau et terre, qui sont celles que nous avons.
Alors, vous avez dit que concernant l'agriculture en Afrique, qu'on doit repenser l'Afrique et la Méditerranée, parce qu'aujourd'hui, la Méditerranée, c'est un cimetière, et vous avez eu des mots quand même un peu forts. Après l'esclavage, aujourd'hui, il y a des gens qui payent pour mourir en Méditerranée.
Et c'est vrai. En fait, quelqu'un qui paye 5 000 $ pour venir de l'Afrique vers l'Europe et il meurt en Méditerranée, il paye pour 50%, 60% des possibilités pour mourir dans la Méditerranée. Donc c'est un fait, c'est pas un secret. Avant, c'est un phénomène qu'il faut combattre, pas en faisant des murs, mais en créant des ponts vers l'Afrique, qui est une magnifique opportunité pour l'Europe, mais non seulement pour l'Europe, parce que c'est pas l'Europe qui s'est rendu compte que c'est une minière immense de capacités d'opposer. Il faut repartir des Africains, pas de l'Afrique, en tant que continent.
Et quelle est la différence que vous faites? Parce que vous avez dit que jusque-là, on a parlé de l'Afrique, mais on a rarement parlé des Africains.
Parce que l'Afrique était exploitée pour ses capacités de production de l'or, de l'uranium, etc. Donc les grandes puissances du monde se sont intéressées à l'Afrique pour exploiter les ressources naturelles de ces magnifiques continents. Et ils n'ont pas pensé à développer, à donner la possibilité aux Africains de s'épanouir et de trouver la voie du développement.
Et aujourd'hui, c'est un problème. Et c'est un paradoxe parce que vous avez dit en même temps que l'Afrique, c'est le continent le plus riche en ressources naturelles.
Oui, c'est un des continents les plus riches encore, qui a un potentiel énorme qu'il faut qu'il soit exploité par les Africains en partenariat avec d'autres interlocuteurs, bien sûr.
Et le plus grand potentiel, c'est l'agriculture.
Et le potentiel, c'est l'agriculture. Donc, il faut partir des besoins, valoriser nos savoirs, valoriser nos produits, valoriser les économies locales pour qu'elles puissent s'épanouir. Et donc, l'innovation, c'est ça. Et cette innovation s'adresse aux jeunes. Les mêmes mots innovation ont des significations différentes. Pour nous, c'est la technologie. Pour d'autres, l'innovation, ça peut être aussi un tuyau avec 4 trous. Et là, on peut économiser avec cette innovation 70% des ressources en eau quand il manque d'eau. Donc, il faut aussi savoir adapter la connaissance aux besoins. Et donc, ça, c'est le secret. Donc, c'est un monde différent qu'on imagine. Et c'est pour ça qu'on a défini notre plan d'action sur la Méditerranée qui a 4 piliers et qui part du fait qu'il faut faire la lutte contre tout type de gaspillage. Connaissance, ressources naturelles et alimentation. Et ensuite, le deuxième pilier, c'est valoriser les modèles alimentaires durables. La diète méditerranée en est un exemple, ou sinon l'agroécologie, etc. Au troisième, il faut un développement inclusif. Surtout, il faut investir sur les zones marginales, sur les populations marginales. Donc, il faut investir en connaissance, en recherche, pour leur donner la dignité qu'ils cherchent. Et donc, le quatrième pilier, c'est la conséquence logique. Comment réagir aux crises, donc les migrations, le changement climatique, etc. Justement, un investissement sur ces populations, hommes et femmes, naturellement, sur les petites entreprises, parce que ce sont vitales, et ça représente aussi la plupart des entreprises qui existent au monde. Parce qu'il y a 70% de l'agriculture au monde qui est faite par des petites entreprises. Le reste, c'est une agriculture sans agriculteurs. Donc, il faut décider quel modèle aussi d'agriculture.
Je vous remercie.
Merci à vous.
On va traverser la Méditerranée pour aller sur le continent africain avec Khaled Higué, qui est directeur des partenariats publics et industriels du OCP International au Maroc et président fondateur du Cercle de réflexion Club 2030 Afrique.
Il s'agit d'une institution à but non lucratif qui organise des rencontres, d'échanges et de partage, diffuse des publications, veille, centralise et partage l'information pertinente, enfin s'associe à des partenaires pour conduire des actions de terrain.
Le Club de l'Unité d'Afrique, c'est un laboratoire d'idées. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur les questions de développement pour le continent africain, parce qu'on part du principe que si les pays africains veulent être émergents à horizon 2030, il faut qu'on développe les politiques de base du développement. Donc, il faut les réfléchir et les mettre en place. Mais c'est d'abord l'Afrique même qui va penser son développement.
Alors, aujourd'hui, on a parlé d'agriculture. Et vous avez dit que l'agriculture, jusque-là, a été pensée du point de vue économique seulement.
Effectivement, quand on parle de l'agriculture, souvent, on regarde tout de suite le spectre économique. On n'a pas souvent une approche systémique. Et quand on parle de la sécurité alimentaire, on ne peut pas juste se cantonner à la productivité du secteur agricole. Il faut aller beaucoup plus loin. Parce que aujourd'hui, l'Afrique produit 1,2 tonnes à l'hectare, à peu près. Alors que d'autres continents sont en produit 4 ou 5 tonnes à l'hectare, beaucoup plus sur d'autres continents. Mais ce qu'il faut regarder à côté, c'est quelles sont les causes qui amènent à cette sous-productivité. Ça, c'est la première chose. Donc, la question des infrastructures, je parlais du stockage, je parlais de la préservation, je parlais du transport. Ça, c'est un problème important.
Vous avez donné des exemples. Vous avez dit, par exemple, c'est à 50% des mangas en Casamance et un tiers des ananas au Bénin. Il y a des soucis?
Effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes au Bénin, vous regardez sur le marché, vous avez des ananas qui pourrissent à la fin de la journée à cause du soleil. On n'a aucun moyen de stockage et de transport de ces ananas. Et pire encore, on n'a pas de moyen de transformer ces ananas en jus d'ananas. Parce qu'en fait, si on arrivait à les transformer, on pourrait mieux les vendre nationalement, sous-régionalement et aussi au niveau régional.
Et les mangas en Casamance?
La question est la même. Vous avez la portion étonnante de mangues qui pourrissent en Casamance, alors que ces mangues pourraient aller en Mauritanie, venir à Dakar ou aller dans d'autres pays à côté comme le Bénin et le Niger. Donc c'est vraiment du gaspillage.
Mais dans le secteur de la pêche, c'est encore plus...
C'est encore plus criant dans le secteur de la pêche, parce que là, la question de la conservation et du stockage est un problème crucial. C'est des produits frais. Donc si vous voulez transporter des poissons à Niamey, si vous n'êtes pas en capacité de les conserver, bien sûr, vous arrivez à des poissons morts à Niamey. Donc là, toute la question est là aussi.
Alors, je vais tenter de résumer. Vous dites, d'abord, il y a des problèmes de productivité. On produit, il n'y a pas beaucoup de rendement à l'hectare. Maintenant, il y a des gaspillages ou des pertes après les récoltes.
C'est ça. Si on veut nourrir les gens, ça veut dire déjà qu'on arrive à consolider ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, nous perdons entre 30 et 50% de ce que nous produisons. Donc, c'est un sujet important. Donc, nous devons aller vers la conservation du stockage et mettre en place toutes les infrastructures dont nous avons besoin pour sauvegarder cela.
Maintenant, il y a la grosse question, la question cruciale des échanges, parce que produit, l'agriculteur peut-être sait le faire, mais il ne maîtrise pas le marché.
L'accès au marché a toujours été un sujet très important pour les agriculteurs africains, comme je dis, qui est une agriculture familiale. Donc ça veut dire quoi qu'on ait une agriculture familiale, c'est qu'on est isolé. Et quand on est isolé, on ne peut pas peser sur le marché. Ça, c'est un point important.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous vendre des intrants et qui fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un d'autre qui vient vous acheter votre production et qui fait ce qu'il veut.
Donc, il faut renforcer le secteur agricole, créer beaucoup plus de coopératives pour que les agriculteurs soient plus solides et plus de voix. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut développer le marché local. Parce que l'agriculture, ce n'est pas seulement exporter. Contrairement à ce qu'on entend, ce qu'on pense, l'agriculture, c'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire de son pays. C'est que les gens puissent se nourrir déjà au niveau local. Donc aujourd'hui, en Afrique, nous disons que nous n'arrivons pas à nourrir les gens au niveau local et nous parlons que d'exportation. Ce qui est paradoxal, non? Donc, en fin de compte, la première chose, c'est créer une agriculture pour nourrir au niveau local, assurer la sécurité alimentaire au niveau des pays, aller au niveau sous-régional et enfin au niveau régional. Et c'est comme ça que nous allons y arriver.
Vous avez dit qu'il y a 15% des échanges aujourd'hui qui se font entre pays africains.
Ce qui est vrai. Ce qui est dommage aussi. Aujourd'hui, en Europe, vous avez 60% des échanges qui sont entre les pays européens. Et en Afrique, nous sommes encore à 15%, ce qui est très faible. Mais ça, c'est un héritage colonial. Donc, aller de Libreville à Cotonou, des fois, il faut passer par Paris pour être plus rapide. Ce n'est inconcevable. Ça veut dire qu'au niveau du transport, au niveau des échanges, des personnes et des biens, nous avons énormément de choses à faire pour avancer.
Vous avez pris l'exemple de la pomme à Cotonou.
Je disais tout à l'heure que je suis rentré à Cotonou et que ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir tout sur tous les marchés que des pommes. Quand moi j'étais petit, on voyait des mangues, des ananas. Ce dont j'ai peur, c'est la perte de nos habitudes et de notre savoir-faire ancestral.
On va tenter de résumer globalement. Dans un premier temps, il faut qu'on puisse booster la productivité. Dans un deuxième temps, il faut que nous maîtrisions les échanges, c'est-à-dire ne pas brader ce que nous produisons pour importer à prix fort ce que nous consommons.
Nous devons être capables de choisir dans quel secteur nous avons envie d'importer. Si nous partons du principe que nous sommes capables, par exemple, de produire du manioc et de faire de la protéine, nous nous dirons peut-être que nous n'avons pas besoin de nous porter dans ce sens.
Est-ce que vous arrivez à imposer ça au niveau des discussions internationales?
C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'on parle de souveraineté. Parce que si on perd la souveraineté et on n'est pas capable de définir sa politique, ça devient un problème. Donc au niveau international, bien sûr au niveau des traités, on est capable de dire ça je veux, ça je ne veux pas. Après c'est une question de négociation. Mais il ne faut pas aller négocier, être complètement déficitaire dans la négociation. Il faut que la négociation soit équilibrée. Donc au niveau des pays africains, nous devons être capables de faire des choix politiques pour trouver un équilibre, et ça c'est important.
Mais est-ce que nous sommes suffisamment armés dans les conférences internationales?
Nous devons choisir de l'être. Nous avons quand même le destin d'1,2 milliard de personnes nommées en Afrique. Donc si nous n'avons pas cette possibilité, alors là l'avenir est hypothéqué. Nous devons être capables de l'être, et c'est de toute façon, moi, ma génération n'a plus le choix. Ma génération va devoir chercher un équilibre avec le monde entier, et les jeunes africains, je pense qu'ils sont déterminés à voir les choses autrement, à négocier des accords gagnant-gagnant pour le futur de notre continent.
Je vous remercie, on va finir sur ces mots.
Merci beaucoup.
Nous étions au petit déjeuner de la Méditerranée et de l'Afrique qui a eu lieu à Paris le 4 avril 2017 dernier à l'instigation de l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Moshinsky, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, le coqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.